Réplique, la nuit nous appartient, Nuit debout et les veilleurs, avec Manuel Cervera-Marzal et Axel Rockvam. La loi Taubira, ouvrant le mariage aux couples de même sexe, et la loi El Khomri, de réforme du marché du travail, ont ceci de commun, qu'elles ont suscité une très forte opposition, et que cette opposition ne s'est pas seulement exprimée par des manifestations monstres, mais aussi par des agoras nocturnes. Axel Rockvam est l'un des fondateurs des Veilleurs, et Manuel Cervera-Marzal est un sympathisant de Nuit Debout. Faisons donc les présentations pour commencer. Qui sont les Veilleurs, Axel Rockvam? Que représentent-ils? Que font-ils? Et que veulent-ils?
Bonjour monsieur. Les Veilleurs, qui sont, je le sais pas moi-même, ce sont ceux qui viennent assister, et même plus, vivre l'expérience de la veillée. C'est un terme générique. La veille, c'est pas quelque chose qui est très nouveau dans l'histoire. Chaque génération a trouvé sa manière de veiller. Et la nôtre est singulière. Ce qu'elle a de nouveau, c'est que on a senti le besoin de retrouver une certaine visibilité dans l'espace public. Donc du coup, elle se fait dans la rue et assise sur les places. Et c'est peut-être ça la différence. Ce qu'on représente, du coup, c'est rien que nous-mêmes, mais pas comme bloc de pensée unifié, mais comme personnes libres qui viennent vivre une expérience.
Personnes libres qui ont décidé de faire ces veilles après ou pendant les manifestations, les défilés contre le mariage pour tous. Au départ, il y a eu une insatisfaction à l'égard de cette loi et peut-être le sentiment que les manifestations ne suffisaient pas pour cristalliser cette insatisfaction ou ce mécontentement, Axel Rockvam.
Alors, il y a une double insatisfaction, une à l'égard de la loi en question, et aussi de la manière, c'est-à-dire de la loi sur le fond et sur la forme, qui nous apparaît comme étant d'une violence inouïe, et donc qui nous a amenés à faire s'éveiller, non pas pendant les manifs, mais après, pour aller au cœur des sujets et pour faire ce qu'est vraiment de la politique, c'est-à-dire créer un dialogue. Voilà. C'est ça qui nous a semblé manquer. On n'a pas senti du tout qu'à travers une manifestation et une opposition même massive, on était à même de réunir plutôt que de fragmenter la société. Donc l'idée de la veillée, c'est de chercher plutôt ce qui peut nous relier. Voilà. Donc je le dissocie, et en même temps, c'est bien sûr à la suite des manifestations, mais pour aller plus loin, et puis surtout pour aborder les sujets connexes, puis tous les sujets qui touchent au cœur de l'existence humaine, quoi. Et à l'organisation de la cité aussi.
Alors, une violence inouïe, dites-vous, alors qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce qu'il y a de violent dans les nouveaux types de mariage? Et puis surtout, quelle réponse l'éveillé apporte-t-elle à cette violence, Axel Rockvam?
Alors, justement, il n'y a pas de nouveau type de mariage. Donc, cette loi est simplement une sorte de mensonge et donc n'est même pas une loi, au sens de certains philosophes. Ce qu'on a remarqué avec la venue de cette loi, plus largement, c'est que le conflit de l'intérêt, des intérêts particuliers, en l'occurrence le droit à l'enfant pour tous, par exemple, pouvait prendre le pas sur la recherche du bien commun, qui était le fait que nos parents biologiques soient civilement reconnus, par exemple. Donc du coup, c'est ça qui nous a inquiétés à travers la loi et au-delà de la loi. C'est pour ça qu'on ne s'est pas crispé sur la loi, puisque ça nous aurait empêché de développer bien d'autres sujets et tous les points de vue voilà, qui peuvent se rapporter sur d'autres questions que la loi pose, voilà, sur la politique et la manière
de la faire. Comme recherche bien commun.
Exactement.
Et c'est cela que vous avez voulu défendre à travers ces veillées.
Exactement.
Donc nous verrons quelle forme cela a pris dans ces veillées quelles ont été vos références, comment ça se passe. Vous nous décrirez sans doute une veillée type, Axel Roquevin, mais maintenant je me tourne vers Manuel Cervera-Marzal et je voudrais aussi que vous nous présentiez Nuit debout, qu'on connaît mieux ou qu'on a le sentiment de connaître mieux que les veilleurs parce qu'il y a eu, au printemps dernier, une grande attention médiatique. Mais peut-être y a-t-il d'autres choses à dire que ce que les médias ont voulu refléter, Manuel Cervera-Marzal.
Oui, alors effectivement, Nuit debout, ça naît le 31 mars dernier, hein, dans un contexte qui est que depuis déjà un mois, il y a un grand mouvement social qui se commence à travers des manifestations, des vidéos YouTube, des pétitions en ligne qui obtiennent un certain nombre de signatures et qui dénoncent quoi ? Une loi en particulier, qui est donc la loi travail, la loi El Khomri, qui, pour la énième fois, parce que c'est la même recette qu'on nous applique depuis une trentaine d'années, prétend qu'en facilitant les licenciements, on va augmenter le nombre d'emplois. Voilà. Prétend qu'on va lutter contre le chômage en attaquant le droit du travail, qu'on va améliorer le sort des employés en s'attaquant à leurs droits. Donc c'est pour dénoncer ce mensonge qu'un mouvement social commence. Et à un moment, dans ce mouvement social, il y a un certain nombre de personnes qui se disent « Mais les vieilles recettes, les recettes classiques, elles sont plus tout à fait efficaces. Il faut aller plus loin. Il faut inventer quelque chose de nouveau. » La manifestation, la pétition, la grève, c'est peut-être utile, mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'en s'inspirant de ce que d'autres ont fait depuis 2011 sur des places en Tunisie, en Égypte, en Espagne, à New York et ailleurs, ils se disent, bah tiens, au lieu de se réunir une fois par semaine pour une manifestation, on va rester sur place, on va occuper la place, en l'occurrence la place de la République, ce qui est très symbolique, pour dénoncer cette loi, et c'est là que ça devient plus intéressant, pas uniquement cette loi qui s'attaque au droit du travail, mais le type de gouvernement qui produit ce type de loi, et au-delà de ça, pour attaquer et dénoncer la société qui produit ce type de gouvernement, cette société capitaliste qui fait que, de plus en plus, la valeur ajoutée est distribuée aux actionnaires et non plus aux travailleurs, qu'on a des, pour le dire tout simplement, des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Et donc, si vous voulez, c'était ça l'idée derrière le slogan « Contre la loi et son monde ». Voilà, c'est pas simplement contre cette loi en particulier, c'est contre tout ce qu'elle représente, contre tout ce qu'il y a derrière, contre les inégalités, contre l'oppression capitaliste, mais aussi contre toutes les formes d'oppression. Parce que quand on lutte pour l'égalité, c'est pas simplement l'égalité dans la sphère économique, c'est aussi l'égalité dans la famille, c'est l'égalité entre ceux qui sont d'ici et ceux qui sont d'ailleurs, et c'est pour ça que qu'on peut pas laisser dire, comme ça vient d'être dit à l'instant, qu'une loi qui promeut l'égalité, en l'occurrence la loi Taubira, est une loi extrêmement violente. Non, au contraire, c'est une loi qui pacifie les relations sociales parce que elle les rend plus justes, tout simplement.
Elle les pacifie, mais en même temps, elle suscite une position très forte. C'est une loi clivante. Alors, simplement, Manuel Cervera-Marzal, je vous ai présenté comme un sympathisant de Nuit debout. J'imagine que vous êtes allé à Place de la République à plusieurs reprises, oui. Peut-être toutes les nuits, je n'en sais rien. Mais je lis le communiqué de presse du 30 mars qui lançait Nuit debout. Des solutions existent, nous avons des sources d'inspiration, des idées, des expériences, des savoirs et des savoir-faire, de l'énergie, de la bienveillance et de la joie. Donc, cette joie et cette énergie, l'avez-vous rencontrée ? Et pensez-vous que des solutions aient été proposées dans toutes les AG et dans les différents ateliers de Nuit debout ? Manuel Cervera-Marzal.
Oui, cette joie, on la rencontre pour une raison très simple, c'est que toutes celles et ceux qui sont passés par la Place de la République ou ailleurs, parce que ce type d'occupation de place a eu lieu dans plus de 150 villes en France, peuvent constater qu'aujourd'hui, les places publiques, les places de centre-ville, c'est des endroits où on ne fait que passer, justement, ou bien où on s'arrête 5 minutes pour rentrer dans une grande enseigne, un magasin, faire ses courses, mais c'est un peu le règne de l'anonymat, on s'arrête pas, voilà, on passe par là, mais on prend jamais le temps de s'y arrêter. Et là, on a fait de cet espace public qui avait été privatisé par la publicité, par les magasins, etc. On en a fait un espace réellement public. On a rendu l'espace public à sa vraie vocation. On s'est arrêté pour discuter. C'est quelque chose, une expérience que j'ai vécue et que beaucoup de monde ont vécu sur place qui était particulièrement joyeuse puisque c'est ce que vous demandez. C'est cette possibilité de tout d'un coup se mettre à parler avec son voisin, celui qui est à droite, à gauche, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais rencontré. On lui demande même pas pourquoi il est là, quel est son métier, d'où il vient. Simplement, on se met à parler d'un sujet comme un autre. Voilà, on parle, je sais pas, bah, de cette loi travail, on parle de tel autre problème, de telle préoccupation, telle difficulté qu'on peut avoir dans la vie quotidienne. Et voilà, c'est un espace d'échange, c'est un espace où se recrée du lien, de la solidarité, des choses dont on déplore, on ne cesse de déplorer qu'elles disparaissent, et on les voit apparaître ici. Et des solutions, il y en a eu beaucoup, fruit de ces échanges, par exemple, sur la crise de la démocratie, démocratie dont on parle énormément, il y a une commission démocratie qui s'est réunie pour proposer des pistes procédurelles, institutionnelles, tout à fait concrètes, hein, comme le recours par exemple au tirage au sort, l'interdiction du cumul des mandats, des choses qui visent à aller contre la professionnalisation de la politique. Et là, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a eu beaucoup de propositions concrètes, effectivement.
Alors, ben là, nous allons entrer tout droit dans le débat, peut-être. Les présentations ont été faites. Vous avez encore beaucoup de choses à dire sur ce que sont les veillées, en quoi exactement elles consistent, Axel Roquefort, mais quand même, je retiens. La démocratie, un espace d'échange, on parle avec le premier venu, c'est un peu ce que vous me dites, Mathieu Servera-Marzal. Très bien. Vous avez eu une expérience, Place de la République, avec les veilleurs. Et je voudrais, Axel Roquefort, que vous nous racontiez cette expérience. Vous êtes allé, en plein nuit debout, si j'ose dire, organiser une veillée Place de la République, à vos risques et périls. Donc je dédouble ma question. Pourquoi avez-vous choisi de le faire et que vous est-il arrivé, Axel Roquefort?
D'une part, on y allait nécessairement en plein nuit debout, puisque nuit debout, c'était tous les soirs, en fait, sur la Place de la République. Donc on a choisi un soir, en fait, le soir qui nous convenait le mieux, en réalité, pour vivre cette expérience de la rencontre et proposer une parole. Parce qu'une rencontre ne se fait que sur la base d'une proposition, de donner quelque chose de soi et de recevoir quelque chose de celui qui est en face de nous. Sans cela, il n'y a pas de rencontre véritable possible. Donc du coup, l'idée était bien sûr de faire une veillée sur le thème du travail. Ça paraît bien éloigné de la loi Taubira, mais on aborde mille questions. Donc là, la question, c'était justement très explicite et simple pour que le message soit compris par ceux qui approchaient la veillée, une veillée sur le travail. Et on avait invité, donc, pour cette veillée, plusieurs personnes. Alors, initiateur de Nuit Debout, c'est pas le mot, je crois, qu'il faut employer, mais disons des très proches, comme Frédéric Lordon, François Ruffin, Bernard Friot, qui est un communiste qui a beaucoup travaillé sur la question du travail. Voilà. Précédemment, on avait aussi tenté d'inviter Jean-Luc Mélenchon, mais sans succès jusque-là, même si des contacts ont été pris et que je désespère pas un jour d'avoir leur contribution à la qualité de notre événement. Donc l'idée, là, était de désamorcer, de vraiment montrer qu'il s'agissait...
Ils ont refusé.
Ils ont malheureusement refusé.
Alors, vous avez quand même maintenu l'invitation.
Oui.
Et alors,
sûr, on maintient.
Oui, bien sûr. Mais avec d'autres invités, avec des lectures, comment ça devait se passer?
Exactement. Donc, la veillée, c'est le croisement des pensées et des disciplines. C'est une expérience qui est à la fois intellectuelle et esthétique, où on essaye de rendre le philosophe attrayant par l'esthète, si vous voulez. Le rhéteur, c'est Isocrate et Platon. Et cet événement, bien sûr, on l'a maintenu et on a souhaité le proposer donc sur la Place de la République. Et on avait programmé donc des textes sur le travail. Il y avait un philosophe qui intervenait. Il y avait
et les textes, c'était quel texte, par exemple? Vous vous en souvenez?
Alors, les textes qu'il y avait, il y avait un texte de Saint-Exupéry, il y avait un texte d'Anna Arendt, il y avait des textes aussi de littérature moins explicite, si vous voulez, mais voilà, bon. Il y avait un vice-président de la CFTC
qui était
intervenant, un syndicaliste, Joseph Touvenel. Bon, et donc on est arrivé, bref, sur le lieu avec tout notre programme, nos intervenants, les musiciens aussi, hein, parce qu'il y avait de la guitare, du violon, du piano, voilà. Et là, en fait, on a été se présenter auprès de la commission Accueil et Sérénité pour expliquer donc qu'on était les veilleurs, qu'on venait pas pour perturber, mais pour tenter de créer un lien entre certains membres ou personnes qui viennent à Nuit Debout, du moins, et d'autres personnes qui ont l'habitude de venir aux veilleurs et qui viennent là, ou qui seraient attirées par cet événement. Et voilà, dans l'idée de faire une rencontre, quelque chose d'un peu parallèle entre ces deux mouvements apparemment très contradictoires, et finalement pas radicalement contradictoires, si vous voulez. Donc du coup, on a dit qu'on était prêt à s'installer au bout de la place, qu'on ferait de toute façon pas de bruit, donc il y aurait un écart visible entre les deux, etc., que ce soit bien clair. Mais là, ça n'a pas du tout été possible, puisque des personnes sont un peu agglomérées autour de donc un ami qui s'appelle Charles et moi-même, et ils nous ont dit, de toute façon, vous installerez pas. Alors, des personnes avec des brassards de commission accueil et sérénité, mais aussi des gens qui étaient simplement là. Et qui disent, donc, ce sera de toute façon pas possible, vous partez, on pourra pas empêcher les débordements. Et en fait, bon, du coup, on a même pas pu s'installer sur la place, parce que là, c'était plusieurs dizaines, peut-être une centaine de personnes qui nous empêchaient de nous installer. Donc, on a été au bout de la rue, un peu plus loin, sur une petite passerelle, le premier endroit qu'on a trouvé. Et voilà, c'est pas grave, on fait notre veillée. Les veilleurs s'assurent, on est peut-être d'une petite centaine, parce qu'évidemment, les peut-être 100, 200, je sais pas, les autres, on les a perdus sur la place. Ils cherchaient la veillée qui avait démarré 100 mètres plus loin. On commence cette veillée, mais au bout d'un quart d'heure, des personnes arrivent, etc., commencent à jeter des objets sur nous, des planches de bois, des petits cailloux, à crier, à pousser les gens, enfin à vouloir en fait simplement qu'on se lève pour que ça dégénère un peu. Ce qui réussit au bout d'un moment, puisqu'on se met à se lever, ça ne dégénère pas, mais on est forcé de partir. Donc on s'éloigne à nouveau, 200 mètres plus loin, et on continue notre veillée, voilà, sur toujours des thèmes. C'était en plus passionnant, je suis certain que si les personnes avaient écouté ne serait-ce que 5 minutes le contenu de la veillée, ils auraient trouvé des points de convergence qui les auraient, même si c'est dans une attitude de jugement, les aurait incité simplement à écouter, même avec distance. Voilà. Bon, on a continué notre veillée à cet autre endroit, et à nouveau, un quart d'heure, une demi-heure après, des gens s'attroupent, et là, c'est allé crescendo, puisqu'il y avait des gens avec, moi j'ai vu un point américain, une barre de fer, des gens avaient mis des gants noirs, avaient les yeux, avaient le visage à moitié caché, si vous voulez, au-dessus d'une, des foulards sur le nez, et là, je retrouve des visages du début, ceux-là même qui m'avaient dit, on ne pourra pas empêcher les débordements. Et là, ils arrivent, et ils commencent à frapper, il y a des personnes qui attrapent les téléphones de l'un ou l'autre des veilleurs et qui les jettent sur les murs, etc. La violence, clairement, ça dégénère. On est contraint de se lever, mais même là, de partir, on ne sait plus où aller, du coup. Donc, c'est un petit peu une chasse à l'homme, là, au-dessus de la place de la République, qui s'est opérée. On a pris le métro et on est allé au pied de l'Assemblée nationale, en pensant que là, il y aurait quelques policiers et que ça arrêterait ces personnes qui nous suivaient et qui s'amassaient à chaque fois. Et là, on a fini notre veillée, qui s'est finalement assez bien fini en termes de contenu. Les veilleurs ont tout entendu et on a vécu une expérience extrêmement forte, puisqu'on a conservé notre calme, notre paix, et que même malgré la violence dont on a été victime, on est convaincu que notre action est restée un témoignage pour ceux qui non seulement ont opéré cette violence, mais même ceux qui, au-delà, l'ont soit approuvé, soit même désapprouvé, étant proche de Nuit Debout. C'est un témoignage de plus que de la non-violence. C'est-à-dire, je suis prêt à me risquer pour vous, et j'ai quand même quelque chose à vous dire. J'ai une proposition à vous faire. Voilà un peu le récit de la veillée.
Alors, que répondez-vous à cela, Manuel?
Bon, alors, je réponds que d'abord, j'étais pas présent au moment des faits, donc je ne peux pas en parler sur ce point précis, et que y a tout un ensemble de témoignages contradictoires, comme on peut facilement l'imaginer sur des événements comme cela, donc il faudrait aller les voir. Le discours que vous nous servez là, Monsieur Ogvam, est absolument mielleux, empreint d'humanisme. On est allé chercher la rencontre, le dialogue, le respect. Et on a trouvé quoi? La violence à l'état brut. On nous a frappés avec des barres de fer, ces gens avec des couteaux entre les dents qui n'attendaient qu'une seule chose.
Il a pas dit ça.
De nous démolir.
Ça,
non, mais c'est l'imaginaire.
Il a raconté ce qui lui est arrivé en plusieurs épisodes. C'est-à-dire la violence.
Excusez-moi, parce que en fait, vous l'avez laissé parler pendant. J'ai pas de chronomètre. Mettre en main, mais vous l'avez laissé parler pendant à peu près 6-7 minutes sans l'arrêter. Moi, vous me coupez au bout de 30 secondes.
Je ne vous coupe pas. Je dis non, simplement,
mais
je
c'est
vous
simplement
un
traitement
dents,
différentiel.
Un couteau entre les dents, c'est, oui, le mot n'a pas été prononcé, et c'est tout. Et je l'aurais coupé s'il avait caricaturé vos propos, ça je peux vous le promettre.
D'accord. Donc, vous arrivez avec ce discours prétendument ouvert et tolérant, alors que vous savez très bien que les idées que vous défendez, les accointances politiques que vous avez, parce que vous recevez dans vos veillées des gens comme Christine Boutin, des gens comme Marion Maréchal Le Pen, des personnes qui sont fondamentalement homophobes dans leurs propos et dans les idées qu'elles défendent, et comme vous, vous l'êtes aussi, vous allez voir des gens qui sont place de la République et qui, eux, ont un idéal égalitaire. Un idéal égalitaire, on l'a dit, sur les questions économiques, mais un idéal égalitaire aussi concernant ce qu'on appelle les questions de société, l'égalité entre les sexes et l'absence de discrimination en fonction de votre sexualité. Donc, comment vous étonner ensuite d'être mal reçu, si je puis me permettre? Exactement la même chose s'est passée 3 ans avant, lorsque, pendant qu'on était en 2013 avec la Manif pour tous, les fémènes, qui elles défendent les droits des femmes et les droits des homosexuels, ont essayé de se pointer, mais on pourrait faire un parallèle parfait entre les deux, ont essayé de se pointer à une des manifestations de la Manif pour tous, qu'on devrait plutôt appeler la Manif contre certains, puisque c'est davantage de ça qu'il s'agit. Et j'invite tout le monde à retourner voir les images, elles sont toujours disponibles sur YouTube. C'est d'une violence démentielle, d'une violence aussi à coups de poing américain, de barres de fer. Elles ont été reçues par le service d'ordre, je ne sais pas de qui exactement, mais elles ont été violentées. Et je peux vous garantir que quand on cherche à s'inviter de force chez les gens, comme par exemple, il y avait aussi tout un tas d'écologistes qui étaient là, place de la République, il y a quelques années, ils ont essayé de rentrer à l'Académie française où siège Monsieur Finkielkraut pour prendre la parole dans un débat, dans un colloque qui promouvait les OGM. Et ces agriculteurs de la Confédération paysanne ont essayé de rentrer pour discuter, pour avoir un débat, pour amener des données factuelles sur les OGM. Ils ont même pas pu mettre un pied à l'intérieur, ils ont été reçus par des hordes de CRS qui se sont pas privés de frapper ces militants non-violents qui se revendiquent de Gandhi, de Martin Luther King, etc. Donc voilà, c'est tout simplement ça.
Axel Roquefam, quelle est votre réponse?
Oui, alors bon, il y a un petit point à éclairer sur ce que sont les veilleurs. C'est-à-dire que, par exemple, Christine Boutin et Marion Maréchal-Le Pen, on les a pas invités à Paris. On les a pas encore invités, parce que ça pourrait être très intéressant que sur tel ou tel sujet, le but n'étant pas de politiser nos événements, mais leur donner une saveur par les intervenants, la saveur politique des intervenants qui vont venir. Et si vous regardez les intervenants des veillées, il y a plus d'historiens, de philosophes, de sociologues, mais même de comédiens, d'humoristes, de musiciens, que d'hommes politiques.
Marion Maréchal-Le Pen et Christine Boutin sont venus ou sont pas venus, parce que
alors,
c'est important quand même.
Alors, je les recevrai avec joie à Paris, si elles entendent cette émission, elles le savent. Marion Maréchal-Le Pen est intervenue aux veilleurs de Versailles. Et c'est là que je veux bien faire comprendre ce que sont les veilleurs. C'est-à-dire que il n'y a pas de centralisation, disons que ce mouvement n'est pas régenté par une doxa qu'il tend à imposer dans l'espace public. Les veilleurs de Versailles invitent qui ils veulent. Les veilleurs de toute autre ville invitent qui ils veulent. Chaque semaine, il y a une dizaine de veillées en France. Il y a 45 veillées aujourd'hui par mois. Et c'est un mouvement qui est né il y a 3 ans et demi bientôt. Donc, dans toutes ces veillées, entre 40 et 50 veillées par mois, évidemment qu'il n'y a pas de contrôle des intervenants. Et c'est génial si les gens arrivent à inviter des intervenants qui sont intéressants parce qu'ils font vivre une expérience, pas uniquement parce qu'ils viennent développer un discours politicien. Donc, du coup, à ce titre, peut-être que Christine Boutin et Marion Maréchal-Le Pen sont intéressantes ou pas.
Mais qu'est-ce que vous appelez politique?
En venant, par exemple, dans une veillée, vous pouvez...
Qu'est-ce que vous appelez politique? Parce que
je finis juste sur cette idée, parce que vous n'êtes pas... Le propos qui est tenu dans la veillée n'engage pas les veilleurs qui sont présents. Ce qui est intéressant, c'est de succéder les interventions, de croiser les pensées et les types d'interventions littéraire, artistique, intellectuel, historique, philosophique, politique, et de forger ainsi sa pensée. En fait, notre constat, c'est que s'il y a une profonde fracture dans la société aujourd'hui, une atomisation, c'est pas parce que X a succédé à Y à la tête de l'État, mais parce qu'on manque cruellement des références fondatrices qui seules permettent à une société de se reconnaître un passé et un destin commun. Peggy parlerait d'une mystique qui malheureusement se finit en politique. Donc on veut retrouver ces références fondatrices à travers les témoignages des personnes. En fait, les intervenants dans les veillées sont pas là tant pour donner une expertise ou une ligne de conduite qu'un témoignage personnel. Et la deuxième chose sur la place de la République, c'est qu'en fait, vous dites que c'est un lieu ouvert à tous et d'accueil.
Non,
c'est la place de la chose publique. Donc en fait, on a bien considéré qu'on pouvait s'y rendre et dialoguer avec ceux qui étaient là.
Emmanuel Saverin-Marzal, là, je suis obligé.
Et pour les fémènes aussi, évidemment, ça n'a rien à voir avec les veilleurs.
Je ne sais pas
d'où la comparaison, mais inappropriée.
La violence est justifiable dans un cas et non dans l'autre.
Vous avez quand même dit...
La violence est injustifiable dans les deux cas, et je n'y étais pas. Mais la question des fémènes, moi, je n'ai pas envie de débat sur les fémènes. Est-il bien d'aller...
Oui, parce que c'est un cas qui ne vous arrange pas. Quand la violence est
de l'autre côté. Oui, mais tout nu avec des enfants, en projetant des produits, bon, c'est pas,
parlons du dialogue. Parlons de la violence de Nuit Debout. Je fais intervenir brièvement mon propre témoignage. Nuit Debout, j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai voulu me rendre compte par moi-même. Je suis donc allé un samedi du mois d'avril, les choses se sont très vite très mal passées pour moi. J'ai été raccompagné au bout de 20 minutes par la commission accueil et sérénité, j'ai été injurié. Et effectivement, une femme au visage masqué par un foulard criait derrière moi des coups de latte, etc. Et ça a été un événement assez pénible, mais j'ai dû, si vous voulez, j'en ai tiré la conclusion que le débat est célébré à Nuit debout, mais la contradiction est proscrite, puisque j'incarnais la contradiction alors que je n'étais venu que pour voir. Je ne voulais pas parler, je ne voulais pas intervenir, je voulais simplement savoir, écouter. J'ai écouté l'Assemblée générale, j'ai écouté une petite commission sur la condition animale, etc. C'est tout ce que je voulais faire, mais j'ai eu le sentiment que on aime l'étranger, mais on est allergique à toute présence étrangère. Et j'ai été effaré aussi parce que j'ai lu ensuite sur un blog à propos de mon expulsion, c'est la commission accueil et sérénité qui a écrit pour dire que j'assistais depuis plus d'une heure à l'Assemblée populaire avant que certains n'exigent mon départ. C'est faux, je n'ai pu tenir qu'un quart d'heure, 20 minutes, et j'ai été étonnamment vulgaire. Je n'étais pas agressé par une foule menaçante, mais c'est moi qui menaçais de coups de latte les 4 ou 5 personnes révoltées qui criaient pour réclamer mon départ. Il y avait une meute. Simplement, je me suis retourné en répétant le mot des coups de latte et des coups de latte que je venais d'entendre, et je me suis fait cracher dessus. Donc j'étais très étonné que la commission accueil et sérénité elle-même, qui voulait me protéger, ait en fait fait et cause pour ceux qui vociféraient. Et je me suis dit qu'au lendemain de cela, les gens de Nuit debout allaient dire c'est dommage, qu'ils reviennent, pourquoi pas, etc. Au contraire, Frédéric Lordon a dit que je l'avais bien mérité puisque j'étais le porte-parole le plus notoire de la violence raciste identitaire. Donc cette violence, j'en ai été moi-même le témoin et la victime, même si le mot victime est un peu exagéré, mais rien n'arrivait de très grave. Simplement, on peut se dire, mais de quoi s'agit-il? Pourquoi parler d'agora alors qu'on veut être absolument entre soi et que on chasse toute forme de différence? Manuel Cervera-Marzal.
Bon, écoutez, d'abord, en préalable, pour lever ce point-là, je suis désolé, moi, personnellement, de ce qui vous est arrivé. C'est jamais agréable, effectivement, ce type de situation. Ceci étant dit, vous êtes quelqu'un d'intelligent, monsieur Finkielkraut. Quand vous faites des choses, elles sont réfléchies, elles sont pensées. Vous êtes un philosophe, vous êtes un fin homme politique, avec tout ce qu'il y a de noble, dans ce terme-là. Un fin stratège aussi. Quand vous allez dans un espace comme celui-ci, faites-moi croire que vous y allez simplement, comme le disait d'ailleurs Monsieur Roquevam, pour le plaisir du débat, du dialogue, contradiction.
Je
voudrais simplement finir.
Je voulais
Monsieur
pour voir.
Quoi que vous pensiez de vos propres idées, vous savez que vous êtes perçu par tout un pan de la société française comme effectivement le porte-parole de tout ce qu'il y a de plus nauséabond en termes d'idées racistes et particulièrement islamophobes aujourd'hui. Je vous lis parce que je prends plaisir à lire mes contradicteurs. Je trouve que vous avez une très belle plume, que vous avez un style littéraire tout à fait plaisant. Mais une fois qu'on dépouille vos ouvrages de tous ces oripeaux, qu'est-ce qui reste au fond? Il reste une seule idée, une seule thèse qui revient en boucle, c'est que tous les maux que connaît aujourd'hui la société française sont de la faute de qui? Des musulmans, des féministes et des antiracistes. Et c'est à peu près ce même discours que vous répétez à satiété dans tous les médias où vous avez porte ouverte parce que, effectivement, vous êtes quelqu'un qu'on fait débattre partout et qui est présent sur tous les plateaux. Dans le contexte de Nuit debout, où des gens qui, pour le coup, sont invisibilisés, sont humiliés, sont jetés dans l'ombre et, pour une fois, à un bref moment, ils reprennent la parole, ils reprennent un peu de dignité, ils reprennent un peu de visibilité. Vous, ça vous fait souffrir de voir les gens sortir de l'ombre. Vous, ça vous fait souffrir de voir tous ces humiliés, tous ces dominés reprendre un peu leurs choses en main. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous précipitez d'y aller pour provoquer, parce que bien sûr, vous savez que vous allez être mal reçu.
C'est faux.
Vous le savez, vous
c'est
ne
faux.
Le ferez croire à personne.
C'est
vous
faux.
Savez parfaitement que
c'est
vous
faux.
Serez mal reçu.
Non.
Et d'ailleurs, vous avez été mieux reçu que prévu. Vous avez été mieux reçu que prévu, puisque vous avez pu rester une soixantaine de minutes. Mais revenons sur ce point-là, parce que c'est un point intéressant.
Vous
nous dites, et Axel Roquevam nous dit la même chose, ces gens-là, à Nuit debout, ne supportent pas la contradiction, n'acceptent pas tout le monde. Mais ils n'ont jamais prétendu accepter tout le monde. Nuit debout, c'est pas la réunion ou l'agora. Nuit debout, c'est pas l'agora des bisounours course où tout le monde est content d'être là. En démocratie, il y a des conflits, et des conflits, ça peut être sévère. Des conflits, ça peut être rude. Mais oui, monsieur Finkielkraut, quand on déblatère des idées, parce que ce que vous, les idées racistes que vous déblatérez, les idées islamophobes ça que suffit, déblatère monsieur Rockvan, elles font système avec des actes. Si,
vous
non,
passez
non,
les
attendez,
bords.
Non, non, vous attendez, parce qu'en 2013...
Je ne vous autorise pas, monsieur, vous êtes mon invité, je ne vous autorise pas à dire que je déblatère des idées racistes. Et je vous citerai, Alors je vous citerai Salman Rushdie, quelque chose de nouveau était en train de se produire, la montée d'une nouvelle intolérance, elle se répandait à la surface de la Terre, mais personne ne voulait en convenir, un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. Quant à dire que, selon moi, tous les mots viennent de l'islam, c'est absolument faux. Mais je ne peux pas vous laisser dire que je suis, à la radio, à la télévision ou dans mes livres, l'homme qui déblatère des idées racistes. Ce que je constate, c'est que au nom de l'antiracisme, précisément, on chasse les gens et on combat l'inhumanité du vieux monde en purgeant la terre de ces monstres. Et ça, si vous voulez, ça a à voir plutôt avec une mentalité totalitaire qu'avec cette aspiration démocratique dont vous vous réclamez par ailleurs. Manuel Cervera-Marzal.
Alors, vous ne m'y autorisez pas, mais je vais me permettre de vous répondre sans l'autorisation de monsieur Alain Finkielkraut. Ce que je comptais dire avant que vous m'interrompiez, c'est que en 2013...
Vous traitez de raciste et vous parlez et vous dites que je vous interromps.
Vous m'avez, traité de totalitaire, de purge, comme vous venez de traiter tous les gens qui ont participé à Nuit Debout. C'est amusant parce que juste avant d'y aller, vous disiez, tiens, on a là des démocrates qui veulent discuter, débattre, c'est très bien. Et le lendemain, comme ça, revirement complet, ça devient les pires totalitaires de la société.
Je voudrais insister
sur un point qui est important, c'est qu'effectivement, vous professez des idées. Alors, raciste ou pas, chacun en jugera. Homophobe ou pas, chacun en jugera. Mais le point important, c'est que 2013, année où on a un déferlement d'idées qui vont à l'encontre des droits des homosexuels, c'est aussi l'année où on a une explosion des actes homophobes, des violences homophobes, des agressions dans la rue. Et aujourd'hui, la libération du discours islamophobe, c'est pas seulement un discours qui s'en prend aux personnes en les stigmatisant, ça s'accompagne de « mais regardez comment on traite nos compatriotes de confession, d'origine ou de croyance musulmane aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux ». Et ce discours va avec des pratiques.
Et vous pensez pas qu'il faut ouvrir les yeux aussi sur le fait que 28% des musulmans, selon une enquête de l'Institut Montaigne, sont pour la burqa, pour la polygamie, et refusent explicitement les lois françaises. Il faut aussi ouvrir les yeux sur la situation qui est faite et un certain nombre de compatriotes musulmans qui choisissent la voie de la sécession culturelle. Dénoncer les amalgames est une nécessité absolue, mais au nom de la dénonciation des amalgames, on ne peut pas non plus rester aveugle à la situation qui nous est faite contexte qui existe en France depuis janvier 2015.
L'Institut Montaigne, il faut peut-être préciser, qui est un think tank étroitement lié aux Républicains, à l'UMP, premier point. Et deuxièmement, je suis très heureux de vous entendre dénoncer les amalgames, mais en même temps, il me semble que vous vous êtes aussi positionné en soutien des maires qui interdisent le burkini. Quand après une série d'attentats, le premier réflexe, c'est de dire on va interdire les burkinis parce que ça pose un trouble à l'ordre public, c'est quoi ? C'est un amalgame énorme en fait, où vous présupposez que le burkini, c'est le premier pas vers le samedi on met un burkini et le dimanche on pose une bombe. Excusez-moi, mais si ça c'est pas un amalgame...
Alors, Axel Rockwam, réintervenez dans le débat. Moi, je me retire maintenant. Et peut-être, pouvez vous répondre et nous expliquer aussi ce qu'il en est de votre propre travail à l'intérieur des
veillées. Disons que ça s'éloigne un peu du débat sans s'en éloigner. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites que la politique, c'est donc d'agréger des combats communautaires pour faire un front puissant, pour renverser un puissant, alors un système, un régime, etc. Alors que dans nos veillées, précisément, et c'est là sans doute la divergence de fond qui rend les veilleurs pas réconciliables avec Nuit Debout, mais qui néanmoins n'empêche pas les veilleurs d'être réconciliables avec les personnes qui vont à Nuit Debout, qui elles conservent leur liberté de sentir que le combat politique est quelque chose de plus profond et qu'il est plutôt la recherche d'un bien commun que le combat permanent de communautés pour acquérir des avantages sur le dos de qui ? Sur le dos de quelqu'un qui peut-être un jour ne voudra plus supporter que toutes ces communautés gouvernent la politique plutôt que le bien commun qui inclut de fait ces communautés. C'est pour ça qu'avec les veilleurs, on cherche pas à défendre notre vision de la société, puisqu'on n'a pas de vision commune. J'ai la mienne, la personne qui s'occupe des instruments de musique dans l'équipe a la sienne, chaque personne a la sienne. Et on n'est pas tous d'accord dans notre équipe qui organise les veillées à Paris. On est une petite dizaine, hein, et on n'est pas tous d'accord. Et je suis même pas sûr de bien connaître les idées de tous. Et c'est ça qui nous distingue, c'est-à-dire qu'on organise des événements qui laissent venir la vérité de là où on ne l'attend pas forcément. Nos références sont très plurielles. On a beaucoup lu, par exemple, un auteur communiste, un fondateur du Parti communiste italien qui s'appelle Antonio Gramsci, qui prône un combat culturel, etc., pacifiste. On lit les poèmes patriotiques de Louis Aragon, Hannah Arendt. Et on essaye de faire vivre cette indifférence des sources que défend saint Thomas d'Aquin, qui consiste à écouter plutôt ce que dit la personne que de juger la personne qui le dit, discréditant ainsi son propos qui suit. C'est pour ça que le dialogue est possible que sur le fond et pas entre l'opposition entre deux étiquettes. Et c'est ça que j'ai voulu briser en allant place de la République pour qu'elle soit pas, disons, occupée seulement par Nuit Debout. Il ne s'agissait pas d'occuper pour nous les places quand on va sur les places de Paris. Il s'agit de les habiter et de les faire vivre. Quand on s'assied sur la place, on raconte l'histoire du lieu. On raconte l'histoire de tel écrivain qui est venu ici ou de tel événement historique qui a eu lieu ici. On raconte, on explique l'architecture du monument historique qui est face à nous quand on est devant la Comédie française, l'Académie française, les Invalides, la place de la République. Donc en fait, on vit un événement qui est plus profond, plus humain et qui a une dimension politique plus large, une vraie vision politique. Et cette hystérisation du débat, elle est aussi due, à mon avis, si le débat politique devient impossible, c'est parce qu'il devient superficiel. Voilà. C'est ce contre quoi on lutte pour chercher un bien qui est commun et à Nuit Debout et aux veilleurs. Oui, là, ça a été difficile, ça. Ce sera possible dans d'autres contextes, dans d'autres univers, mais sans doute avec les mêmes personnes. Peut-être. Mais peut-être.
En fait, j'aime votre optimisme.
J'ai le sentiment, je suis désolé, mais que vous noyez un peu le poisson, c'est que vous nous dites là, on accepte tout le monde. Mais en fait, quand on regarde, on sait très bien, alors je suis désolé, je vais essayer de ne pas envoyer des termes insultants cette fois-ci, mais on sait très bien que vous êtes des catholiques, traditionnalistes, intégristes, je ne sais pas quel terme exact que vous vous mettriez dessus, mais vous acceptez pas tout le monde, vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes un groupe très restreint dans la société française. Et vous nous dites, on débat de tout, on discute de tout.
Attendez, excusez-moi, je finis juste.
Je n'ai coupé personne depuis le début de cette émission, c'est un terrible réflexe sur les plateaux. Et vous nous dites, on discute de tout, on débat de tout, mais en fait, excusez-moi, vous vous êtes constitué quand même en 2013 pour une raison précise, sur une cause précise, qui est votre opposition au... Attendez, excusez-moi, laissez-moi finir. Monsieur Finkielkraut, est-ce que vous pouvez rappeler à l'ordre mon contradicteur, parce que c'est juste pas possible de débattre dans ces conditions.
Le problème, c'est que quand on débat sur les opinions, à ce moment-là, tout le monde s'écoute, mais quand il y a des contradictions sur les faits, il est normal que
vous m'invitez ici, vous savez que j'étais pas là, j'ai jamais prétendu être là, ni quand les veilleurs sont venus, ni quand Alain Finkielkraut est venu, j'étais pas là. Donc les faits, je peux que renvoyer chacun vers les différents témoignages.
Vous pouvez faire confiance aussi.
Oui, je peux. Non, excusez-moi, mais vous me permettrez, j'attends pas votre autorisation pour parler, et vous me permettrez de pas accorder ma confiance à des personnes comme vous.
Voilà. Chacun apporte sa confiance. Je vous remercie aussi d'avoir accepté mon invitation pour que vous
puissiez
permettez, comme vous le faites, de m'insulter en me traitant raciste et en disant que vous n'avez aucune confiance en moi.
Mais je pensais venir à réplique. Je pensais venir à réplique et pas à faites entrer l'accusé avec deux procureurs qui...
Vous n'êtes pas un accusé. Je vous pose des questions. Je vous laisse la possibilité de répondre. Je vous dis que quand il y a un désaccord sur les faits, il est plus difficile de s'écouter que quand il s'agit d'exprimer opinions divergentes. C'était le point que je voulais faire valoir.
D'accord, mais alors
allez-y, terminez votre raisonnement.
Si c'est un désaccord sur les faits, dans ce cas-là, il faut aller en justice si vous avez été victime de violence pour qu'un juge établisse les faits. Moi, m'invite à une émission sur France Culture pour discuter d'idées, pas pour discuter de Monsieur Finkielkraut.
Non, c'était les faits concernant...
Moi, je discute des idées, vous m'avez invité pour ça, c'était ça
quand vous avez
l'accord.
Dit vous êtes des catholiques traditionnalistes, etc., il y avait peut-être un désaccord factuel. Il ne s'agit plus de moi.
D'accord.
Moi, la parenthèse est fermée.
Alors, laissons la question du profil sociologique, si on veut bien, des veilleurs, et supposons qu'il y a aussi plein de féministes, par exemple, ou d'homosexuels parmi les veilleurs, ce dont je doute, mais admettons. Et revenons sur la question des idées. Vous ne nous dites pas depuis tout à l'heure pourquoi est-ce que vous vous opposez à cette loi qui ouvre la procédure du mariage civil aux couples de même sexe. Vous ne nous le dites pas. Je voudrais savoir, je voudrais l'entendre, parce que là, on a l'impression que vous nous servez un discours absolument... Moi, j'ai envie de presque d'y souscrire à votre discours.
De militants politiques. On essaye... Vous dites, il y a des débats, on dit que les débats chez nous sont libres. En fait, il n'y a pas de débat. Il y a des successions d'interventions libres, où on entre dans un rapport de disciple à maître pendant quelques minutes, en écoutant peut-être Alain Finkielkraut bientôt, peut-être vous.
J'y suis jamais allé encore.
Hein. Pas encore, je l'espère, voilà, vous êtes invité. Et puis ce rapport de maître à disciple, entre l'historien et l'éveilleur, entre le violoniste et l'éveilleur, s'inverse à un moment donné, parce que il s'avère que celui qui l'écoutait avant a aussi quelque chose à donner.
Donc, mais c'est répondez pas un débat à la question. Qui vient hystériser. Répondez à la question
alors,
précise
sur
que vous avez
la question
été posée.
De la loi. C'est l'origine d'éveilleur, puisqu'on a voulu approfondir ce débat, aller à l'essence du problème, à l'origine, à la racine du mal.
Mais quelle est la nature? Pourquoi dites-vous aussi brutalement que c'est un mal? Après tout, on peut penser en effet, ouvrir le mariage aux couples homosexuels, c'est un progrès de la liberté et de l'égalité. Pourquoi deux hommes ou deux femmes qui s'aiment n'auraient-ils pas le droit de publier leur amour, puisque le mariage a cessé d'être une institution, c'est un contrat qui lie entre elles deux personnes amoureuses. On peut vous dire, ben voilà, pourquoi ces deux personnes, dans l'état actuel même du mariage, devraient-elles être nécessairement des personnes de sexe différent?
En fait,
Axel Roquevam.
Oui, bon, on a développé cette question pendant beaucoup de veillées. En fait, moi, je ne vais pas aller sur les plateaux pour faire le contenu d'éveiller, puisque je me sens moi-même plus passeur que intervenant. Je ne suis pas l'intervenant majeur de la veillée, si vous voulez.
Oui, mais
donc
enfin,
sur cette question, puisque vous me posez la question, je vous dirai qu'il ne s'agit pas du sentiment amoureux qui lie le contrat, puisque ce sentiment est très fluctuant, et donc il ne suffit pas à justifier la possibilité de son contrat. Donc en fait, ce mariage, il n'est pas un mariage, cette loi n'est pas une loi, parce que elle ne répond pas à l'expérience, aux règles de l'expérience humaine, aux règles du corps humain, une loi qui est au-dessus de loi, qui est celle de l'expérience humaine, qui doit primer sur les idéologies.
Et l'expérience humaine, c'est quoi? C'est quoi l'expérience humaine, selon
l'expérience
vous?
L'expérience humaine, c'est qu'il n'y a pas de différence plus profonde et plus radicale entre deux êtres
que leur
différence de sexe, le fait d'être homme et le fait d'être femme, et que cette différence n'est pas un méfait ou une menace, mais au contraire l'opportunité, puisqu'il n'y a pas de communion plus profonde qui puisse être vécue entre deux êtres, que la communion de l'homme et de la femme dans le don total de soi.
Et est-ce que vous êtes favorable donc c'est à l'union civile entre personnes du même sexe? Est-ce que vous êtes favorable à cela? C'est-à-dire contre le mariage, mais une union civile avec tous les droits afférents, notamment.
Ma position, là, ce serait injuste vis-à-vis du mouvement des veilleurs que d'aller dire je suis pour ça ou ça. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est ça. Après, il y a des gens qui font des lois. Ça n'est pas mon métier. Et je reconnais encore à ceux qui font des lois une autorité. Néanmoins, quand ce ne sont pas des lois, je leur dis, c'est pour ça que les veilleurs se constituent plutôt en si vous voulez, en syndicalisme de la conscience, si je dois utiliser une image.
Donc, ne répondez pas tout à fait à ma question quand même.
Oui, j'y réponds pas, puisqu'en fait, mes idées comptent peu. Ce qui compte, d'accord, c'est que dans la veillée, par exemple, j'invite une personne qui s'appelle par exemple Philippe Arignaud, qui est une personne homosexuelle, qui a écrit sur son expérience, etc., qui explique sa manière de vivre son homosexualité. Elle intervient à la veillée et elle a toute une légitimité, une puissance dans son témoignage que j'estime être éclairante pour les veilleurs. Donc lui, il va en parler, mais moi, qui suis-je sur ce sujet? Il y a d'autres sujets sur lesquels je serai légitime, si vous voulez, mais celui-là, c'est pour bien faire comprendre ce que sont et ce que font les veilleurs,
d'accord,
que je dis tout cela. Voilà, alors, que je m'arrête sur le terrain des lois et la politique.
Alors,
simplement comme loi.
Je vais poser une question précise maintenant à Manuel Savera Marzal. Vous avez dit que j'avais une obsession l'islam. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai dans mes interventions ni dans les livres que j'écris, et parce que j'ai une autre hantise qui est celle de l'école et de la culture. Qu'en est-il aujourd'hui de l'école et de la culture? J'ai donc lu avec un intérêt particulier, un texte publié de la commission éducation, Debout l'école, un texte du 65 mars, en l'occurrence le 4 mai. J'y apprends que le système éducatif français est à l'image de la société qu'il a construit, violent et inégalitaire, qu'il perpétue les inégalités et qu'il faut donc en changer pour supprimer cette sélection, ce tri social qui sévit à l'école. Il faut faire du bien-être des élèves une priorité, dans et hors les murs de l'école. Il faut affirmer la conviction que les élèves sont tous et toutes également capables de tout. Et donc, c'est aux éducateurs, aux éducatrices, à l'école et à la société de leur en donner la possibilité. Les savoirs transmis doivent être diversifiés et leur hiérarchisation critiquée. Les pédagogies émancipatrices doivent être largement diffusées dans la formation des personnels d'éducation. J'y apprends aussi qu'il faut améliorer la situation des travailleurs et travailleuses de l'éducation, que tous les travailleurs et toutes les travailleuses de l'éducation, tous les usagers et toutes les usagères ont droit de prendre part aux décisions qui affectent l'école. Je constate donc que le mot de maître est aboli, qu'il ne s'agit plus de cours et surtout pas de cours magistral, qu'il n'y ait pas fait référence à la culture, à la littérature, à quelque forme de tradition que ce soit. On ne parle que de travailleurs et de travailleuses de l'éducation, on ne parle que de pédagogie, et donc j'ai le sentiment, moi, que c'est une réponse, disons, contestable à une crise actuelle de l'école qui vise aujourd'hui tous ses élèves parce que la transmission de la culture n'y est plus assurée. J'aurais aimé qu'à Nuit debout, ces questions-là soient posées également. Et je constate avec tristesse qu'elles ne le sont pas du tout. Mais Manuel Savera-Marzal.
Écoutez, moi je suis pas spécialiste de questions pédagogiques. Ce texte est un texte issu d'une commission, en particulier de Nuit debout. Donc voilà, d'une partie de Nuit debout, il n'est pas avalisé par l'ensemble du mouvement. C'est probablement des gens intéressés par les questions pédagogiques, peut-être des enseignants, des éducateurs qui se sont réunis, qui ont dû discuter, élaborer ce texte. Il faudrait effectivement les inviter ou aller les rencontrer pour leur demander d'expliquer un petit peu tout ça. Moi, la transmission de la culture, ce que je peux vous dire, c'est que sur la place, il y a eu un nombre important de historiens, justement, puisqu'on parle de transmission, qui sont venus nous parler de la Révolution française. On est même remonté jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à Jeanne d'Arc, parce que vous savez qu'elle a été, son histoire a été entièrement réécrite pour en faire une égérie du Front National, alors que il y a une autre histoire de Jeanne d'Arc qui existe et qui est possible. Il y a des gens qui sont venus nous parler de ces choses-là. Il y a des commissions qui ont fait des productions poétiques, il y a des commissions cinéma qui ont produit des films. Donc, la culture, elle est là, elle se crée, elle se transmet, et c'est un lieu où, justement, on a pris le temps de sortir un petit peu de la précipitation du quotidien rythmée par le travail, et puis une fois de temps en temps, quand on a des vacances, on a le temps de se cultiver un peu. Ben non, là les gens ont dit stop, voilà, on se met en grève, ou de toute façon quand on est au chômage on n'a pas besoin de se mettre en grève, on essaye de prendre un petit peu de temps et on va discuter et on essaye de se former entre nous. Bon ben voilà, je vois pas,
et en même temps,
je vois pas ce qu'il y a de mal à ça.
Alors, mais je ne dis pas qu'il y a un mal, mais le mouvement a duré 2 mois, je crois. Il s'est éteint. Vous visiez, ou en tout cas les principaux protagonistes du mouvement visaient la convergence des luttes. Cette convergence n'a pas eu lieu. Donc, quel bilan tirez-vous? Qu'est-ce que la société peut retenir de Nuit debout? Un slogan, une façon de voir les choses. Que reste-t-il? Y a-t-il un héritage de Nuit debout?
Il y a quand même des choses qui ont bougé. Je veux dire, avant Nuit debout, on avait un gouvernement socialiste qui se prétendait défendre la majorité des salariés. On sait aujourd'hui qu'il est clairement du côté de celui que François Hollande désignait comme son ennemi sans visage, à savoir la finance. Voilà. Il a enchaîné loi sur loi en faveur des grands groupes. Bon, ça, c'est une idée, par exemple, qui est tombée, qui s'est déplacée. On pensait avant, en tout cas on pensait assez largement que la police était là pour protéger les citoyens. Ben aujourd'hui on se pose une question différente, c'est qui nous protège de la police? Qui nous protège des violences policières? Parce qu'il faut appeler un chat un chat quand on voit tout ce qui s'est passé.
Qui protège les policiers des violences qu'ils subissent?
Oui, ben les policiers ils se protègent très bien eux-mêmes parce qu'il se trouve qu'ils ont des matraques, des pistolets, des
canons. Pendant les manifestations
beaucoup moins que du côté des manifestants.
Ah bon?
Beaucoup moins.
Alors
que
justement,
du côté des manifestants. Donc il y a des choses qui ont bougé et surtout il y a des liens qui se sont tissés entre les gens. Il y a un vivier milliers militants, il y a des nouvelles personnes qui sont venues à l'engagement politique. On se lamente en permanence de la hausse de l'abstention et de la montée du vote pour le Front National. Eh bien là, on a une vraie alternative. Là, on a des gens qui reprennent en main leurs propres affaires, qui décident de s'investir, de s'engager. Bon, c'est quelque chose qu'on regrette en permanence. Ils sont là, eh bien félicitons-nous de leur présence.
Bien, alors...
Axel Rockwam. Si vous voulez, moi, j'invite aussi les gens à s'engager et à pas considérer dans leur engagement que la loi, comme le disait le sénateur Jean-Pierre Michel, la loi dans la conception marxiste n'est que le fruit d'un rapport de force à un instant T, mais elle est une recherche du bien commun qui s'appuie sur un dialogue et puis surtout sur l'expérience, sur la réalité de l'expérience vécue. Donc du coup, l'engagement, pour moi, c'est de provoquer ce dialogue, d'étudier, de travailler, de découvrir sa culture, de veiller sur les racines, puisque une société de continu, une civilisation digne de ce nom, se reconnaît à la fécondation du présent par le passé. C'est Gustave Thibon qui disait ça. Voilà. Donc puisons aux richesses, demandons notre héritage. Voilà. Recevons notre héritage si on a envie que cette société continue. Et qu'elle arrête de faire dissocier, de se disloquer. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans l'éveillé et dans toute la France. Et j'invite tout le monde à venir essayer, découvrir simplement une veillée. Ça dure 2 heures le soir et voilà, on y passe un bon moment.
Et vous ne pouvez pas, allez-y, vous ne pouvez pas faire ce genre d'invitation puisque Nuit Debout s'est
arrêté. Non, mais simplement parce que...
Monsieur Servera-Marzal, pour finir.
Oui, simplement parce que vous demandiez à Monsieur Rockwam la raison de son opposition au mariage pour tous et vous avez beaucoup louvoyé, on avait du mal à avoir la réponse. Mais là, vous venez de la donner, vous disiez, avec ça, une société va, notre société va se disloquer. Ok, je rappellerai seulement un point, c'est que cet argument de l'égalité qui progresse à travers la loi, cet argument comme quoi faire progresser l'égalité dans la loi va faire se dissoudre la société, va la disloquer, c'est quelque chose qu'on répète depuis un siècle à chaque fois qu'on autorise les femmes à travailler, qu'on autorise la contraception, qu'on dépénalise l'homosexualité, c'est l'argument qu'on répète depuis un siècle, voire deux siècles, et vous le répétez à nouveau aujourd'hui, et on attend toujours de voir la société se disloquer.
On est sur deux modes différents, vous êtes sur un mode très politicien, Et c'est pas la violence qui génère la loi, c'est au contraire l'entente et le dialogue.
Voilà, mais quand vous parlez d'une société qui se disloque, vous parliez d'une société qui se disloque à cause de la loi ou de manière
qui
plus...
Qui se disloque parce que c'est les communautés qui prennent le dessus sur le bien commun, cette fragmentation. Et en même temps, il y a aussi cette tentation prométhéenne de l'homme qui veut tout dominer, qui veut dominer le monde et qui refuse la limite, qui accepte de recevoir le monde tel qu'il est, avec les limites et l'homme avec ses limites propres. Voilà. Et je pense que quand on aura accepté nos limites, on rentrera vraiment, on dépassera le désespoir que provoquent ces limites et le désespoir surmonté, c'est l'espérance et voilà.
Merci beaucoup pour ce dialogue, même s'il a été un peu difficile. Merci Manuel Servera-Marzal, merci Axel Rockwam. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est réécoutable et podcastable pour toujours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Réflexion sur le nazisme ». Mon invité sera Saul Friedlander. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Echard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui Pierre Mine, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.